Ève Tov Lekoulam, on revient dans notre étude du livre de Shemot après l'interruption de la semaine dernière due à l'anniversaire de mon fils. Voilà, effectivement. Eh oui. Et donc, En Malahasot, il y a des choses plus importantes que d'autres. Donc, la fondue au chocolat était plus intéressante et plus importante que Sefer Shemot. Il n'en reste plus. Oui ? Ah. Le cours, donc, ce soir est Leilou Nishmat. Moshe ben Diamanti. Alors, on revient à notre étude du livre de Shemot. On est au chapitre Yud Zayin, verset Zayin. Nous venons de terminer notre réapprovisionnement en eau. Et là, on avait vu dans cet épisode la différence fondamentale entre maintenant, c'est-à-dire le livre de Shemot, et le même épisode qui a lieu 38 ans plus tard, pour ne pas dire 40 ans plus tard, où le peuple d'Israël a soif et où il y a une histoire de rocher, une histoire de bâton, et où ça ne se termine pas vraiment pareil. D'accord ? Et on avait expliqué quelle était la grande différence. C'est que là, c'est un peuple juif qui vient de sortir d'Égypte, qui vient de sortir de l'esclavage, qui n'est donc pas encore capable de faire quoi que ce soit tout seul. Il faut à ce moment-là que ce soit Moshe qui fasse tout. Donc quand Dieu, à ce moment-là, lui dit « Prends le bâton, tape le rocher, il va sortir de l'eau », c'est tout à fait naturel. On attend de personne d'autre d'être capable d'agir. Mais 40 ans plus tard, lorsqu'on est la génération, non pas qui est sortie d'Égypte, mais qui a grandi dans la liberté et qui va conquérir maintenant la terre d'Israël, eh bien, on doit montrer qu'ils sont capables maintenant de faire eux-mêmes, d'agir. Et donc, à ce moment-là, il fallait que Moshe choisisse. Est-ce qu'il fait partie encore de l'ancienne génération ? Et donc, c'est lui qui fait. Et donc, il ne rentre pas en Israël, comme l'ancienne génération qui n'est pas rentrée. Ou est-ce qu'il se revendique faisant partie de cette nouvelle génération dans laquelle il donne des instructions en tant que leader, mais ce n'est pas lui qui fait ? OK ? Là-bas, on connaît l'histoire, on sait que Moshe a choisi de s'attacher plus à l'ancienne génération. À partir de ce moment-là, on peut se dire, OK, on est sorti d'Égypte. On a dévoilé quel était le message du judaïsme. C'est-à-dire, et on a parlé également dans le cours de hier après-midi, on a approfondi encore l'histoire de Shabbat, qui va être donnée à l'époque de la manne. On a lu, on y reviendra certainement dans les 10 commandements, quoi qu'il en soit. Là, il est temps de, ça y est, de brandir haut et fort le fait que maintenant, nous sommes les représentants de Dieu. Le problème, c'est que, est-ce que tout le monde est d'accord ? L'Égypte a accepté. Mais l'Égypte, comment vous dire ? L'Égypte, c'est l'autre possibilité en face d'Israël. Il y a le message proposé par Israël, il y a un autre message proposé par l'Égypte. Mais il y a une autre identité humaine qui, elle aussi d'ailleurs, s'appelle Réchit, qui Réchit Goïm Amalek, qui en vérité n'a pas un autre message que celui d'Israël. Il veut être Israël. C'est très différent. Il veut être Israël, comme on l'avait expliqué avec Timna. Timna, je vous rappelle, cette femme qui voulait s'attacher d'abord à Abraham, ensuite à Yitzhak, ensuite à Yaakov, ça n'a pas marché, ensuite à Esav, ça n'a pas marché, et finalement elle devient la concubine d'Éliphaz, fils de Esav, et elle va lui engendrer Amalek. Amalek est donc porteur de toute la frustration de ne pas être Israël. OK ? Et donc, l'identité de Amalek, c'est de vouloir être nous.
Mais on ne connaît pas Dieu, Amalek.
Qui te dit ?
Non, c'est une question. J'avais l'impression que...
Ah, il est évident que pour l'instant, Amalek, il reconnaît une seule chose. C'est que toi, tu ne dois pas être là. Okay. Zéro.
Et son rapport à Dieu ?
La vérité, c'est que son rapport à Dieu, il n'est pas mentionné dans la Torah. Et c'est assez intéressant qu'à aucun moment on voit non plus leur idolâtrie à eux. Ils étaient minastam ovdei avodah zara. Mais la Torah ne nous a jamais parlé de l'idolâtrie d'Amalek. comme si ce n'était pas le sujet. Son sujet, c'est de nous faire la guerre. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on soit là, donc qui va prendre la place? C'est lui.
Il ne peut pas être idolâtre, c'est pas possible.
Dans les faits, il a sûrement été idolâtre. Certainement. Mais quand tu vois que la Torah n'en parle pas, c'est que ça veut dire que ce n'est pas son sujet. Ok? Son sujet, c'est que nous, on ne soit pas là. Et donc, il y a quand même, oui, un rapport avec le divin, puisque, alors vont nous dire les commentateurs, pour faire plaisir au retour de Shabtaï, vont nous dire les commentateurs, je sais que tu vas beaucoup apprécier cette explication, que Amalek, c'est en Gematria le mot Safek. Et que donc, en fait, dès qu'on a un doute, alors c'est le Amalek qui est dans notre cœur. Bon, je veux bien, mais d'abord et avant tout, Amalek, c'est un monsieur. Et après, c'est devenu un peuple. C'est-à-dire qu'on peut parler d'un Amalek intérieur, pas de problème, mais on ne peut pas en parler à la place du véritable Amalek. Même si la Torah n'a pas besoin de la Gematria, effectivement, c'est là sa première véritable apparition. On sait qu'Amalek est né, mais on ne l'avait jamais vu en action avant ici. Et la première apparition de Amalek va être sur la base d'un doute. Alors regardez, on va prendre le texte maintenant, après cette introduction. Vaikra Shem Makom Massa Umeriva, c'était donc l'endroit où ils avaient pleurniché pour avoir de l'eau. Al Riv Bene Israël Val Nasotam et Hashem, les morts. En fait, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Ayesh Hashem Bekir Benu Im Ain. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est-il avec nous ou pas? Quoi? Ayesh Hashem Bekirbenu Im Ain. Et tu dis, depuis quand ça veut dire O? Ben, depuis que Rashi nous a expliqué dans la Gemara, dans Maseret Rosh Hashanah, que Im peut avoir plusieurs traductions comme le mot qui. Maintenant. Ben, oui, oui, on va souvent dans la Torah. D'accord? Donc, Im, toi, tu l'aurais traduit si. D'accord? A priori. Mais ça peut aussi vouloir dire O. Ou bien Kacher. Tu vois? Donc, j'ai envie de te dire, si tu connais la réponse, pourquoi tu poses la question?
Non, mais il y a
peut-être
une raison.
Non, je sais.
La question est pourquoi...
Pourquoi il n'y a pas marqué O? Voilà. Ça aurait été plus facile. Parce que sinon, tu n'aurais pas pu poser la question. C'est pas mal hein, comme réponse.
Rachid ne la mentionne pas, mais...
Non, non. Alors, y a vraiment un doute ici. Ayesh Hashem Bekir Benu Imayin va y avoir Amalek. Bon, d'accord. Maintenant, deux secondes. On a compris l'idée, ça fait tout ça. Mais moi, je veux comprendre, deux secondes, au niveau historique. Pourquoi il arrive maintenant, Amalek? Pourquoi il arrive maintenant? Justement, ça devrait le décourager.
Ils sont affaiblis.
Bah, qu'est-ce qu'il vient d'entendre?
Il y en a qui sont jusqu'à là.
Ah, d'accord. Mais je veux dire, à ce moment-là, c'est peut-être pas le meilleur moment. C'est-à-dire qu'on est au top, là, maintenant.
Non, ils sont affaiblis. Mais...
Où on est affaiblis?
Ben, là, ils doutent de...
Oui, mais ça, il le sait pas, Amalek.
Ah, bah oui, ben, moi, je sais pas qu'il le sait pas.
Oui, mais c'est sûr qu'il le sait pas.
Non.
Je pose la question au niveau historique, pas au niveau immuni. Au niveau géopolitique. Pourquoi il vient maintenant?
Ben, le peuple est en train de sortir.
Ils ont empêché de rentrer.
Il est sorti. Il est pas en train. Il est dehors.
Oui. Donc, c'est différent de quand il est installé. Du point de vue militaire. Là, c'est un peuple qui sort, qui ne s'est pas organisé comme. C'est un point faible.
C'est le point faible.
C'était un endroit aussi.
Où il n'y avait pas d'eau.
Un endroit.
Où il y avait. Pourquoi ils ont fait le plein, là?
Oui, mais, ça a pas
oui, mais c'est pas intelligent pour eux non plus d'attaquer. Eux non plus, ils n'auront pas d'eau. Oui, mais ça, il ne le sait pas, Amalek.
Ah, si, il a entendu que les Juifs disaient, mais on était bien en Égypte, on était
mieux. Ah bon, il a entendu, ils avaient WhatsApp.
Non, alors,
ils n'étaient pas là.
Peut-être que l'endroit, il est propice
à la guerre. Donc, c'est géostratégique, c'est le meilleur endroit. Alors, au niveau de la stratégie militaire, vous avez peut-être raison. C'est un endroit qui est une plaine comme une autre, pourquoi pas, bon endroit pour attaquer. Mais si on ne va pas rentrer dans le détail de l'attaque militaire, mais simplement, on va dire autrement ce que vous avez dit. Il ne peut pas les attaquer tant qu'on est chez Pharaon. Tant qu'on est en Égypte, il nous déteste quand même. Mais il ne peut pas nous attaquer. Pourquoi il ne peut pas nous attaquer? Parce que s'il ose mettre les pieds en Égypte, Pharaon, il va s'en occuper. C'est une violation du territoire. Moi non plus, j'aime pas les Juifs, mais c'est mes Juifs. C'est moi qui les persécute, c'est pas toi. Pourquoi est-ce qu'il attend pas qu'on arrive en Israël avec Yehoshua? Comme t'as dit, quand on est à la maison, qu'on a Tsahal, ils peuvent rien contre nous. Amalek, c'est-à-dire dans la conscience collective du peuple juif, mais pas que, parce qu'on va voir le verset, ça suffit. Nous, on sait, nous, on a un peu de bouteille, c'est-à-dire que eux, c'est la première fois qu'ils rencontrent Amalek. Nous, on connaît Amalek depuis lors. Et on sait très bien que le but d'Amalek, c'est de nous détruire. C'est pas de nous... Comprenez-moi, c'est vraiment différent de Moab, Midian, les autres peuplades qui vont nous faire la guerre, mais pour nous dominer. Là, le but, c'est pas de nous dominer, c'est de nous éliminer. Bah, on le connaît certainement au niveau de la généalogie, on sait qui c'est, mais je veux dire, on ne l'a jamais rencontré là concrètement. On ne connaît pas ses intentions, même si on sait que familialement parlant, on n'était pas les meilleurs copains du monde. C'est-à-dire, mais ce que je veux dire, c'est que la notion ici à Malek, le combat est très très différent. Il est là pour nous détruire. Maintenant, à ce moment-là, il faut bien comprendre que la possibilité de nous détruire n'arrive que Baderer. Et on l'a déjà dit souvent, donc comme ça, ça va bien rentrer. Cette possibilité de détruire le peuple juif n'est que Baderer. Mais Baderer de quoi à quoi? Eh bien, Baderer en sortant de l'exil vers la Géoula. Tant qu'on est en exil, Amalek ne peut rien contre nous. Comme on a dit de manière historique, parce que bah, le patron de l'exil de l'époque... C'est lui qui gère. Aval, il n'y a pas que au niveau historique et politique. Au niveau Emouni, eh bien, Akadosh Baruch Hu va nous faire une promesse. Promesse, certes, qui va arriver que dans le livre de Dvarim, mais promesse quand même, dans laquelle il nous dit « Ve'av gamzot, biyotam be'eretz oyevehem, lo ma'astim ve'lo ga'altim lechalotam, le'aferet beriti itam ». Nous dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire « biyotam be'eretz oyvehem, behavayatam yiyu » Ça en français, « lorsqu'ils devront être dans le pays de leurs ennemis, je ne les abandonnerai pas. » Promesse de Dieu. Exactement. Exactement, tu as très bien compris. Quand on est en exil, nous avons une promesse divine que Dieu ne laissera pas les goïms nous décimer complètement. Pogrom par-ci, pogrom par-là, ok, mais Shoah, l'eau. L'eau. Pas du tout et pourtant.
Justement.
Justement. Voilà, pas et pourtant, justement. Quand on est à la maison, comme dirait mon grand ami Obélix, qu'ils y viennent. Qu'ils essayent de nous faire quoi que ce soit, hein, on va les recevoir. On l'a déjà prouvé et on continuera à le prouver s'il faut. Aval, lorsqu'on est Bein Ayetzia Meagalut, le Bein Ageoula, eh bien, à chaque fois que cet événement s'est passé, le danger d'Amalek est arrivé. La première fois, avec Yaakov, on l'avait étudié ensemble. Lorsque Yaakov est sorti de chez Lavan, mais il n'est pas encore arrivé chez Papa Yitzhak, Esav arrive avec 400 hommes et veut nous décimer. Esav, c'est le grand-père d'Amalek, c'est l'essence. Baruch HaShem, on s'en est sorti. Ici, deuxième fois où on sort d'exil, cette fois en tant que peuple juif, plus en tant que Yaakov en devenir, mais en tant que peuple juif, on sort d'exil. On n'est plus en Égypte, on n'est pas encore à la maison avec Yehoshua. Va y avoir Amalek.
Je croyais que c'est que quand on parle.
Non, quand, ben le ben. C'est-à-dire que plus c'est rapide, moins il a le temps de nous attaquer. Plus tu tardes, plus le danger est là. Zenaron, tu as raison. Yaakov, il a tardé. Naron, Yaakov, il a tardé. Nous, on n'a pas tardé. Mais le danger est quand même là. Alors, il a été beaucoup plus rapide. Ça va?
Comment on appelle l'attaque de... quand on veut nous décimer et qu'on est sur notre terre?
C'est une tentative qui est vaine.
D'accord, mais on ne parle pas ni d'Amalek.
Naron, c'est pas Amalek. D'abord, c'est pas du tout Amalek. Ceux qui ont voulu nous décimer sur notre terre, c'était qui?
L'Égypte.
Attends, ah, tu parles de l'Égypte de maintenant?
Oui.
Ah, d'accord, d'accord, autant pour moi. Pas que l'Égypte à ce moment-là.
Non, pas que l'Égypte.
Pas que l'Égypte. Les pays arabes qui se sont organisés, et coalisés en 48, en 56, en 67, en 73. Oui, mais attention, là, c'était pas pour nous décimer. Ah non? Ah, pas du tout? Ah, pas du tout? Ah, pas du tout? Exactement. C'est pas pareil. On voulait les dégager de Palestine. On voulait les dégager d'ici, qui retournent en Europe. C'est-à-dire qu'on ne va pas se donner la peine de les envoyer en Europe. Si on peut les massacrer, on les massacrera, il n'y a pas de problème. Mais l'idéal n'est pas de tuer tous les Juifs, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'ils ne soient pas là. La preuve en est, c'est qu'avant 48, et en vrai, ce n'est pas vraiment avant 48, les premières velléités, les premiers combats véritables entre Juifs et Arabes dans la renaissance du sionisme, c'est à partir de 1921. C'est après la déclaration Balfour, avec le combat de Tel Hai. Mais avant cela, il y en a toujours eu des Juifs ici, sous domination musulmane. L'Empire ottoman était musulman. Mais tant qu'on est sous domination, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que pour les Arabes coalisés, si on vient et on dit « bon, bah, on se rend », vous avez gagné. On peut continuer à payer la taxe d'IMI pour être... Ils vont dire oui. Donc c'est pas pareil.
Alors on les définit comment?
C'est un ennemi politique qui est l'ennemi qui s'appelle Ishmael. Et Ishmael, c'est complètement différent de Amalek. Ishmael, on a étudié son problème quand on a étudié le livre de Bereshit.
Naron? Amalek de nos jours,
c'est Amalek de nos jours, c'est celui qui veut éradiquer le peuple juif. Non, ma pitom. Le BDS, il veut pas éradiquer le peuple juif. Le BDS, hein? Il y a que des juifs là-bas en plus. Le BDS, c'est des gens qui veulent, ils ont d'ailleurs aucun problème avec l'État d'Israël, ils veulent juste que l'État d'Israël soit confiné entre Ashdod et Ramat Aviv. Allez, Natania, jusqu'à Natania. Voilà. Ils n'ont pas de problème avec Israël entre Ashdod et Natania. C'est ça? Enfin, entre Ashdod et Natania, il ne faudrait pas non plus que ça comprenne Akko. Akko, dans ce au-dessus, mais il ne faudrait pas que ça comprenne Yafo, il ne faudrait pas que ça comprenne tout le carême. Bien sûr que non. Ça va? Mais qui sort? Tous ceux qui veulent détruire le peuple juif. J'ai plusieurs noms, si ça t'intéresse, de gens qui veulent détruire le peuple juif. Ah, je ne sais pas si l'Iran veut détruire le peuple juif. Les dirigeants iraniens aujourd'hui. Oui, mais est-ce que c'est l'Iran? Oui, mais c'est pour ça que je fais la différence entre, que ce soit Ahmadinejad ou Khomeini, voilà, les dirigeants iraniens, je ne suis pas du tout certain que le peuple iranien il soit dans cette optique-là. Je pense que le peuple iranien, en termes de culture, il a tout simplement envie de retrouver la puissance de l'Empire perse. Ce qui est complètement différent, et ça c'est pour une partie d'entre eux. L'autre partie d'entre eux, ils regrettent énormément la révolution qui a renversé le Shah. Ils étaient très bien en tant que pays occidental. C'est-à-dire, mais bon.
Le problème, c'est qu'ils veulent à tout prix avoir la bombe
atomique
pour l'utiliser contre
nous. Donc ça veut dire que notre problème ici, c'est qu'à chaque fois qu'on revient... Alors, on a dit pour l'Égypte, on a dit pour Yaakov, ça reviendra ce schéma-là à la sortie du deuxième exil, à savoir la sortie de l'exil de Perse. Lorsque Koresh nous donne la permission de revenir en Eretz Israël, qu'on ne revient pas, qu'on tarde, ce que tu veux, Aman arrive dans la fête de Pourim. Et on approche de Pourim. Et c'est Aman, un descendant direct d'Amalek, Aman à Agagi. Et dans notre génération, eh bien, l'exil prend fin lorsque, du moins il devrait prendre fin, lorsque les nations du monde nous disent « c'est bon, vous pouvez rentrer en Israël, sans Rémo ». Déclaration Balfour, Mais avant de créer concrètement l'État d'Israël, eh bien, il y a la Shoah. Ok ? Donc, de nos jours, il n'y a plus à craindre la Shoah. Non, il y a sûrement Amalek, mais il ne peut plus rien faire contre nous. Voilà, parce qu'on est en Géoula. Donc, s'il a envie de nous attaquer, qu'ils y viennent, on va l'éclater. Mais ça dort. Maintenant, ça veut dire aussi que, d'après le schéma qu'on vient de faire, par quatre fois, on a été mis en danger par Amalek. Malheureusement, la dernière fois, il nous a frappé très, très, très sérieusement. Mais ça montre aussi que la Shoah n'est pas inévitable. On l'a évité trois fois dans l'histoire. Malheureusement, il y a 70 ans, on n'a pas réussi à l'éviter. C'est ça ? Donc, tout ça pour dire, vayavo Amalek, vayillachem im Israël berefidim. Ok ? Vayomer Moshe el Yoshua. Bechar lanu anashim vetse lilmod bakoilel. Ah, non, c'est pas ce qui a marqué. C'est pas ce qui a marqué. Il n'y a pas marqué « Yoshua, toi, t'es le meilleur de mes élèves, va étudier la Torah et envoie les gens pas religieux faire l'armée. » Non, c'est pas ce qui a marqué. C'est bizarre. Ici, il y a marqué « Vayomer Moshe et Yoshua, qui est le plus grand élève de Moshe, il n'y a pas plus grand que Yoshua. « Bechar lanu anashim vetse, toi aussi, leilachem ba'amalek. » Ah ah. Donc ça veut dire que, d'après la Torah, qui va faire la guerre? Non, pas tout le monde. Talmidei Chachamim. Non, il n'y a pas besoin de tout le monde. Alors, on ne va pas prendre tout le monde pour attaquer Amalek, ça va. Mais si on a besoin de tout le monde, on prendra tout le monde. Mais si on doit choisir, qui on choisit en premier? Les Tzadikim. Hey, le Rambam nous dit, Alpi Halakha, dans les Ilchot Melachim, dans les lois sur les rois et sur les guerres, que tu n'as pas le droit d'aller à l'armée, tu es pas tour de Milchama. Alors, certes, Milchemet Reshut, ok, Milchemet Reshut, si jamais tu as peur. Ah, par exemple, pas avec Gideon, et là avec Gideon. C'est où tu dis Gédéon, ou tu dis Gideon. Tu peux pas faire un mix. Tu peux pas me dire Gideon, ça marche pas. Donc tu choisis, ou tu le francises et tu dis Gédéon, et c'est la classe, ou alors tu l'appelles comme il faut, tu l'appelles Gidon. C'est-à-dire... Alors, la Torah, elle dit juste si tu as peur. Effectivement, tu as raison. Le Rambam, les commentateurs vont nous dire que tu as peur de quoi? Pas seulement d'être tué à la guerre, parce que ça, c'est tout le monde, mais que tu as peur d'une faute que tu aurais commise qui risque de te faire mourir à la guerre. Donc tu n'auras pas de mérite. En gros, il faut être un super tzadique. Donc, Nahon, Alpi Halakha, seuls les Talmidei Chachamim, les Tzadikim, doivent apprendre à faire la guerre. Et quand je dis faire la guerre, c'est pas à coup de Tehilim. C'est Béhémet. Et effectivement, quand tu regardes dans la Torah, dans tout le Tanakh, eh bien, tu vois que les gens qui sont les chefs de guerre, les gens qui nous mènent au combat, sont les Talmidei Chachamim le plus grand qu'on ait. Je parle évidemment de David, Benayahu, Ben Yehoyada, Shimshon Agibor, Gidon, Vechadome. Ça a l'air... Hein? Pourquoi on ne va pas tous? Genre, donne-moi un exemple. De gens qui ont mené les guerres d'Israël telles que la Torah les a demandées et qui n'étaient pas des tzadikim? Yiftach, tu as raison. Yiftach, c'est pas qu'il n'était pas tzadik. Yiftach, tu ne sais pas s'il était racha ou tzadik. Tu vois qu'il est fan de Dieu. Mais il est barbare. Il est avec des hommes de peu de foi. Mais on ne t'a pas dit que Yiftach, il était Mechalel Shabbat, qu'il était Oved Avodah Zarah, ce que tu veux. Avant Yiftach, il est bon à guide. Il n'a pas inventé le fil à couper le beurre.
On l'avait rejeté aussi.
Et en plus, on l'a rejeté, tout ce que tu veux. Non, mais tu vois dans la promesse qu'il fait à Dieu de donner en sacrifice la première chose qui va sortir de sa maison, ça va être un petit peu problématique. Ça a l'air... Bon, mais à part Yiftach, qui, il faudra quand même bien le dire, est un excellent ambassadeur à l'ONU, parce que Yiftach, il va balancer quand même un discours extraordinairement plein de émouna et de force face à Melech Moav, donc finalement, et Melech Amon, hein?
Finalement,
c'est quand même un mec bien, hein, Yiftach.
Quand tu parles des
Talmidei
Chachamim, ils doivent quand même apprendre à se servir du
Nar. Ben évidemment, comment tu veux faire la guerre sinon? Alors, bien sûr que le rabbin qui a déjà 98 ans, c'est pas lui que je vais amener sur le champ de bataille. Mais il va me dire quels sont les meilleurs élèves de la yeshiva en ce moment. Yalla, au boulot. Ça va? Nous. V'tzei lachem ba'amalek machar. On est quel jour là? Pas dans le texte. On est quand? Eh bien, les amis, on est le 27 du mois de Iyar. On est le 27 Iyar, lorsque Dieu dit à Moshe, et Moshe dit à Yoshua, choisis les hommes pour se battre contre Amalek demain. Donc la guerre de Amalek sera quand? Le 28 Iyar. Ce qui veut dire que la première victoire militaire du peuple juif, c'est le 28 du mois de Iyar, qui est, d'après les sphirotes de la Kabbalah, Chesed Sheba Malchut. C'est-à-dire le moment où on reçoit la royauté par excellence. Et la royauté, c'est celle qui sait faire la guerre, qui sait faire des actions politiques. Il est donc tout à fait normal que le jour où on est revenu dans la ville de la Malchut, c'était le 28 Iyar, Yom Yerushalayim. Comme quoi? Exactement. Ça a commencé ici. Mais ça a l'air. Donc, Machar, Anochi nitzav al rosh ha-giv'a, umatea Elohim beyadi. Alors, Moshe va-t-il participer à la guerre? À sa façon. Mais c'est pas que Moshe, il sait pas faire la guerre. Moshe, il sait très bien faire la guerre. D'ailleurs, il le montrera dans la paracha de Roukat, où il fera la guerre lui-même contre Og Melech HaBashan. Il y aura un duel mano à mano entre Og et Moshe. Un vrai duel digne des romans de la chevalerie.
Il n'était pas jeune.
Ah, Moshe, il avait 120 ans. Ouais, mais Og, s'il a survécu au déluge, il n'était pas jeune non plus. Si c'est le même Og qui nous est mentionné dans le Midrash, alors il n'est pas jeune non plus. Ben, ça adore, nous, Mazem Shane. Quoi qu'il en soit, le fait est que Moshe, il sait se battre. S'il faut se battre, il sait se battre. Mais là, lui, il va servir à autre chose. Il va servir à montrer quel est l'idéal pour lequel on se bat. Alors, voyons voir comment ça se met en place. Vayas Yehoshua, Kaasher, Amarlo, Moshe, Leilachem, Be'amalek, ou Moshe, Aaron, Vechur, Alou, Rosh, Agiva. Donc on a quatre chefs des opérations. On a un Mefaked, un commandant sur le terrain, il s'appelle Yehoshua. Mais c'est Shevet Yehoshua. Yehoshua. Il est le fils de Noun. Merci. La tribu de Ephraim. En gros, Yosef. Ok, il est le représentant de Yosef. Je vous rappelle, lorsque, eh bien, Yaakov avait croisé ses mains entre Ephraim et Menaché, il avait dit Yadati beni Yadati, Gamhu Yeleam, Vegamhu Yigdal, Avalachi Vakaton, Yigdal Mimeno. Je sais que lui aussi, ce sera un grand, mais son frère sera plus grand. Rachid dit, c'est qui le grand chez Ménaché? C'est qui le grand qui va sortir quand même de Ménaché? C'est Gideon, ou Gédéon, ou Gidon. Et le grand de chez Ephraim, c'est Yehoshua. C'est-à-dire? Donc, Yehoshua, c'est Yosef. Ok. On a Aharon. C'est qui lui? C'est Lévi. Et on a Hur. C'est qui Hur? On le connaît? On n'a jamais vu parler de lui. C'est qui? Au début. Quel début? De Lévi. Oui, dans la généalogie de... Pour amener à Moshe, tu dis. Eh bien, si tu poses une question de la sorte, à savoir, qu'est-ce que dit la Torah sur ce sujet-là? Eh bien, je propose de regarder dans ce qui a marqué dans la Torah. C'est un grand concept qu'on a appris de nos maîtres, un concept directement enseigné de la Kabbalah, que si tu veux savoir ce que la Torah elle dit sur un sujet, eh bien demande à la Torah. C'est un chidouche atzoum ou becholzot. Alors, chapitre, deux secondes. Quoi ? Ben oui, c'est parachat Vaera au début là-bas. Au début de Vaera, deux secondes, ça vient. Il est page 31 pour les livres blancs. Et pour les autres, c'est au chapitre Vav, verset Yud Dalet. Enfin, non, verset Tet Zayin, voir. Ve'ele Shemot Bene Levi, les Toldotam, Gershon, Ukeat, Umerari, Ushne Chaye Levi, Sheva, Ushloshim, Umeashana, Bene Gershon, Livni, Veshimi, le Mishpechotam, Uvne Keat, Amram, Veitzar, Vechevron, Veuziel, Ushne Chaye Keat, Shalosh, Ushloshim, Ushloshim, Umeashana, Ubene Merari, Machli, Umushi, El, le Mishpechot, Alevi, les Toldotam. ויקח אמרם את יוכבת דודתו, לא לאישה, ותלד לו את אהרון ואת משה, ושני חיי אמרם שבע ושלושים ומאה שנה. ובני יצהר, קורח ונפק וזכרי, ובני עוזיאל, מישאל ואלצפן וסטרי, ויקח אהרון את אלישבע בת המנדב, אחות נחשון, לא לאישה, ותלד לו את נדב ואת אביו ואת אלעזר ואת איתמר, ובני קורח, אסיר ואלקנה ואבי אסף, אלה משפחות הכורחי, ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לאישה, ותלד לו את פנחס, אלה ראשי אבות הלוויים ממשפחותם. אבנו. אילפדדו. Il aurait dû être dedans, c'est pas sympa. Non, il aurait dû être dedans parce que, ben, on a quand même occulté une personne dans la généalogie, puisqu'on a dit qu'Amram, il a pris Yochevet et qu'il a eu Aaron et Moshe. Ben, il a eu Myriam aussi, c'est pas cool. Hein, c'est pas sympa. Myriam, elle est mariée avec un monsieur qui s'appelle Kalev. Kalev, Ben Yefouné. Eh ouais, Kalev ben Yefouné et Myriam, ils ont un fils qui s'appelle Hour.
Ils ont été pris sur le tombeau des patriarches à
Rémi, ils ont conduit. Oui, juste Kalev, d'accord. Bekitsour, donc Hour, c'est le fils de Myriam. C'est le neveu de Moshe. Donc Moshe est accompagné par son frère et son neveu. Sauf que Hour, c'est le fils de Kalev. C'est donc la famille royal. Eh oui, car Kalev, c'est le frère de qui? De Otniel ben Kenaz, qui est dans la famille de Nachshon ben Aminadav. C'est la dynastie royale. Donc, Hour, c'est le représentant de la tribu de Yehuda. Donc, on a Yosef, Yehuda, Velevi. Qui sont Berosh Agiva. Ah ah. Alors qu'est-ce qui va se passer là-bas?
Yosef est en bas.
Ah oui, excuse-moi, autant pour moi. Yosef est en bas, il se bat. Et Yehuda et Lévi sont Berosh Agiva. C'est-à-dire, Moshe, il est Al. Il est ni là, il est tout. Vaya kaasher yarim Moshe yado ve gavar Israël, ve kaasher yaniach yado ve gavar Amalek. Donc Moshe. Quand il y a les mains en haut, on gagne. Quand il y a les mains en bas, on perd. Nous dit la Mishnah, tout de suite, dans Maseret Ta'anit, « Vechi yadav shel Moshe osot milchama ?» Bah, c'est magique. Quoi, les mains de Moshe, ça fait la guerre? Non, j'ai fait comme ça. Mais d'accord, mais je ne vais pas te... Ça va.
La Torah dit d'ailleurs qu'il y avait quelqu'un qui lui dit à lui lever les mains.
Ah bah attends, ça, on va venir. Bekitsour, donc... Quoi, les mains de Moshe, c'est magique? Et là, nous dit la Mishnah, et là, kshayu mistakelim klape mala ou mesha'abedim et libam laaviem shebashamayim ayu menatsrim. Pourquoi?
Comment on fait le Tehilim? C'est pas. Ils disent pas que quand ils frappaient les ennemis avec leur.
C'est-à-dire que, concrètement, ils ont frappé leurs ennemis avec leur glaive?
C'est pas. C'est pas.
Oui.
C'est pas là qu'il y a la guerre. C'est quand ils.
Oui, mais tu n'as pas compris. Comment on gagne la guerre?
C'est toi qui viens de dire.
Non, j'ai dit que quand on était Mesha Abdi, Metli Benou, la Kadosh Baruch Hu, alors sur le terrain, on gagnait la guerre. C'est-à-dire, bien sûr que il faut se soumettre à la Kadosh Baruch Hu, mais ça ne suffit pas pour gagner la guerre. Il faut la faire aussi. Tu peux prier pour la Parnassa. Jusqu'à demain, c'est Dieu qui donne la Parnassa. Mais si tu ne bosses pas, tu n'auras pas de Parnassa. Il faut faire un minimum. S'il te plaît, Dieu, fais-moi gagner au loto. Mais je veux bien, mais joue.
Mais même si on joue, c'est difficile.
La Sheila, ce n'est pas est-ce que c'est difficile. La Sheila, c'est est-ce que c'est moutard. Non, la Sheila, c'est est-ce que c'est moutard. D'après le Rav de Yosef, c'est assour. Assour. Les sachek, bemifa la païs. Eh ouais. Sheila, Aïm ze possel la edout. C'est une question. Est-ce que ça te fait devenir quelqu'un qui n'est pas acceptable en tant que témoin? Dans des mariages ou un truc comme ça. Parce que non, parce qu'il y a un problème de vol dans l'histoire.
C'est
pas
comme le bonto, parce que dans la Mishnah, on parle du bonto.
On parle pas du bonto dans la Mishnah.
Pas
de genre. Sachek bakoubia. Non, je ne pense pas qu'ils connaissaient le banto déjà à l'époque de la Mishnah. Mais voilà. Nahon, ça rentre dans toute cette catégorie-là. Nahon. De Mesachek Bekoubia, Mafriche Yonim, tous ces trucs-là qui sont des jeux d'argent. C'est l'eau pas chute que c'est moutard de prendre un billet de loto.
Le problème, c'est pas tellement que l'homme qui a le vol, la personne qui joue, c'est celui qui veut jouer, donc il
n'est
pas sûr que Dieu va
l'envoyer. Non, ça. Oui, mais ça, le doute, ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire.
Je l'ai vu à Blébrac, moi.
De quoi?
Acheter les billets de loterie.
J'ai pas dit que c'était interdit.
Non, sont...
J'ai dit Zélo Pachoud, j'ai dit que le Rav Ovadia, il était contre.
Ils
ne peuvent pas être témoins dans quelque chose. Le Rav Ovadia, il n'acceptait pas les gens qui avaient un abonnement au Mifa La Païs comme étant témoins. C'est son avis. J'ai pas dit que... Je crois avoir dit, le Rav Ovadia, il dit que c'est assour.
Oui, mais c'est la halakha, c'est pas la halakha.
Mais il y a d'autres commentateurs, et tout le monde n'est pas d'accord avec le Rav Ovadia. Mais dans tous les cas, c'est le kokar beseder. Dans tous les cas. Il y a plein de gens qui disent que c'est pas assour, mais dans tous les cas, c'est vaut mieux pas jeter ton argent là-bas.
Oui.
C'est vrai. Malasot. Quoi qu'il en soit, Makorepo, on gagne la guerre. Avec des armes. Évidemment, parce qu'on est soumis à Kadosh Baruch Hu, alors il nous donne un coup de main. Pas shoot.
Mais il faut quand même un tzadik qui fasse l'intermédiaire.
Le tzadik, il peut être toi sur le champ de bataille.
Non, parce que
là, c'était Moshe. Mais parce qu'on est dans la première guerre.
Oui, mais est-ce que ça va...
Donc il faut montrer quel est le chemin. Tu vas voir que ça ne va plus être le cas après. Parce que dans les prochaines guerres d'Israël, Moshe va descendre sur le champ de bataille. Mais là, pour la première fois, il faut bien montrer l'exemple. Ok ? C'est gam nachon agav basmanazé. Gam nachon basmanazé.
C'est spécial à Amalek. Est-ce que ça ne nous enseigne pas quelque part que quand on a affaire à Amalek, c'est spécial, c'est pas une guerre comme les autres ?
D'abord, tu as raison. Mais même si tu as raison, on va quand même apprendre ça, pas que pour Amalek. Parce qu'on va voir que dans toutes nos guerres, il y a Kohen Mashuach Milchama. C'est-à-dire que tu as raison de dire que Amalek, c'est une guerre particulière. Zenachon. Mais dans toutes les guerres d'après la Halakha, avant de sortir en guerre, on a un Kohen qui vient et qui nous remonte le moral des troupes. Et comment il fait? Ben il dit, Kadosh Baruch Hu avec nous. C'est-à-dire? Donc, dans tous les cas, Zegam Nachon. Se rappeler que c'est exactement l'histoire qui est racontée. Et par les anciens de la guerre de Kippour. Il y avait quatre copains, Doudi, Efraimke, ça m'échappe les deux autres noms, l'homme chané, quatre copains de Shirion, Shirionerim, des tankistes, qui pendant la guerre de Kippour sont envoyés chacun dans des fronts différents avec leurs tanks. Et l'un des quatre, les quatre ont survécu à la guerre, et l'un des quatre... Malasot, après la guerre, a mal tourné, il a fait teshuva. Aïe. Mais un après-midi d'août, où il faisait très chaud, il invite ses copains chez lui à Be'er Sheva. Donc il fait encore plus chaud. Et les copains arrivent chez lui, et il leur a préparé des pastèques bien rouges et bien suintantes de fraîcheur. Et là, ils sont comme des fous. Il dit, 2 secondes, je vais chercher les boissons. Et quand il est dans la cuisine, les 3 copains se débattent. Et il va nous demander certainement de faire une bénédiction. Il est devenu, dos. Mais qu'est-ce qu'on fait comme bénédiction là-dessus ? Il y en a un qui dit, c'est un fruit. Ça doit être boré peri aetz. L'autre, il dit, mais non, il y a plein d'eau. C'est chez Akol Niabitvaro. L'autre, il dit, mais non, ça pousse par terre. C'est boré peri adama. Bon, c'est là que je pense que l'histoire a été truquée. Parce que s'ils étaient vraiment ce qu'ils semblent être dans l'histoire, ils ne connaîtraient pas toutes les différences de brachot. Mais bon, disons. Le copain arrive et il dit, alors, voilà, et c'est quoi la bracha sur la pastèque? Il dit, bah, c'est boré peri adama. Il y en a un des 3 qui dit, non, c'est chez Akol. Il dit, ah bon, et pourquoi? Il dit, bah, je vais te raconter. Quand on était sur le front égyptien pendant la guerre, à un moment donné, avec mon tank, on était seul face à 7 tanks égyptiens. Que faire? On ne savait plus quoi faire, on n'avait pratiquement plus de munitions, et de toute façon, à 1 contre 7. On était 4 dans le tank, mais personne n'était religieux, évidemment. Notre commandant, qui était un russe de 2 mètres sur 2, pour la première fois, sa voix a vacillé, et il est passé dans les aigus. Et il a dit, les amis, je ne sais plus quoi faire. J'ai pas envie de mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un truc de religieux? On sait jamais. Et il y avait avec nous un petit Témani. Il dit, bah moi, mon grand-père, il était religieux. Et à chaque fois qu'on allait chez lui, il nous donnait quelque chose à manger. Et on mangeait. Il disait, non, avant, il faut dire. Baruch ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Shehakol Niyabidvaro. Je sais pas ce que c'est, mais mon grand-père, il connaissait. Le commandant, il dit, pas de problème. Allez, toi, tu charges l'obus. Toi, tu vises, c'est bon, on est tous prêts, on est tous prêts. Allez, à mon commandement, c'est parti. Baruch ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Shehakol Niyabidvaro, Esh! Et il tire, et l'obus frappe en plein dans le tank en face, qui se lève dans le ciel et retombe sur l'autre. 2 en 1! Et là, le commandant, il dit, en russe, une insulte. Et ensuite, il dit, ça marche! Allez, recharge! Baruch ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Niyabidvaro. Et il dit qu'avec ça, on a réussi à battre les 7 tanks égyptiens qui étaient face à nous. Alors dis-moi, chez Akol Niyabidvaro, ça marche pour des tanks égyptiens, ça ne marchera pas pour des pastèques. Non, non. Bon, en vrai, c'est Boré Peladama, aval! Chez Akol Niyabidvaro, c'est chachouf. Donc ici, Zélo, ce n'est pas les mains de Moshe qui sont magiques. Et là, le but du jeu, c'est de lever les yeux vers le ciel. Quand on se bat, de comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la force. Entre parenthèses, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah qui sera marquée beaucoup plus tard dans la Torah, puisqu'elle sera marquée dans le livre de Dvarim. Mais c'est une mitzvah que lorsque tu bats tes ennemis, ou alors lorsque tu construis la Rakevet Akala, ou alors des grandes constructions, ou alors le nouveau tunnel pour l'entrée de la ville de Jérusalem. Enfin, quand tu fais des grandes choses, et particulièrement quand tu bats tes ennemis, tu dois dire « Kochi ve'otsem yadi asa et achayil azé ». Ben oui. C'est quoi le mot qui a marqué juste avant « Kochi ve'otsem yadi asa et achayil azé » ?« Ve'amarta » C'est mitzvah. Mitzvah t'asé. « Ve'amarta kochi ve'otsem yadi asa et achayil azé » Tu étudieras, c'est ma force et mon bras qui ont fait tout ça, virgule, וזכרת את השם אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. Et tu te rappelleras que c'est Dieu qui te donne la force de faire tout ça. Ainsi, le Rav Tzvi Yehuda Kook, à l'époque où il y avait encore le défilé militaire à Yom HaAtzmaout, eh bien, fermait la yeshiva, envoyait les bachourim de Merkaz Arav voir le défilé militaire pour réaliser le verset ve'amarta kochi ve'otsem yadi asa et achayil azeh ve'zacharta et Hashem Elohecha ki o noten lecha koach la'asot chayil. Ah, Et si tu oublies, si tu ne te rappelles pas qu'il faut manger, qu'il faut bénir... Non, vous allez voir pourquoi j'ai dit manger. Et pourquoi il faut bénir Dieu ? Ah, c'est l'otov. Nahon, c'est vadaï l'otov. Comme le verset qui est marqué 4 versets plus haut, là dans le Sefer Dvarim, qui nous parle de manger. Vous vous rappelez qu'il y a marqué Ve'achalta, Ve'savata, ou Ve'rachta. Donc c'est bien de manger. Oui, c'est bien, si ça t'amène à... Ve'achalta, Nahon. Alors, Chazal, ils vont te dire, il y a une marloquette. Non, t'as raison. Est-ce que la mitzvah, c'est Ube'rachta, et que donc Ve'achalta, c'est Ercher mitzvah, ou est-ce que Ve'achalta, c'est mitzvah? C'est marloket. Nifsak la halakha que bracha c'est mitzvah, donc birkat amazon c'est mitzvah, et donc le fait de manger pour arriver au birkat amazon c'est cher mitzvah. Nous dit le rabbi de Komarno que c'est mitzvah la tzadikim l'echol. C'est reshut l'âme Israël, aval mitzvah la tzadikim. Ok? C'est le moyen d'arriver à la mitzvah. Ok? Bekitsour, tout ça pour dire que là-bas, quand on dit Ve'achalta ve'savata ve'rachta, qu'est-ce qu'il y a marqué juste après? Si jamais tu rentres en Israël et tu as toutes les. Et ça te fait oublier Dieu, pen tochal ve'savata. Faudrait pas que tu manges et que tu penses qu'à remplir ton ventre. Donc, nachon, quand tu manges et que tu penses pas à remercier Dieu, c'est lotov. Mais quand tu manges et que tu penses à remercier Dieu, c'est metsuyan. Donc pareil, quand tu te bats, que tu fais des choses et que tu oublies de dire que c'est Dieu qui t'a donné, bah c'est pas bien. Mais quand tu fais les choses, tu te bats et que tu dis, Ribono shel Olam, c'est grâce à toi tout ça, c'est génial. Ok ? Donc ici, on nous dit, Hakol Tov. Mais le problème, c'est que, Vide Moshe Kvedim. Les mains de Moshe étaient lourdes. Aha ! Donc qu'est-ce qu'on fait ? ויקחו אבן ועשימו תרתיו וישב עליה ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בו השמש. Donc, les mains de Moshe étaient lourdes. Moshe et Aaron et Hur lui ont mis une grosse pierre pour s'asseoir et ils lui ont tenu les mains. Mais les mains de Moshe étaient quoi? Emouna. Emouna, c'est-à-dire Emet. C'est-à-dire, à derech ha-amitit, pour se rattacher à Dieu. Mais on voit que la émouna de Moshe, entre parenthèses, c'est quoi la émouna de Moshe? Ben, c'est le judaïsme. Voilà, c'est pas... La religion mosaïque. Eh bien, cette émouna de Moshe, pour tenir, elle a besoin de deux autres émounotes. Qui le tiennent. Qui l'aident. Ah. Non. C'est une émouna qui est représentée par Aaron et une émouna qui est représentée par Hur. Je vais balancer maintenant une phrase choc. Ne me posez pas de questions, je n'y répondrai pas. Ce n'est qu'un spoiler pour ce qui arrivera beaucoup plus tard dans la paracha de Kitissa. Mais ces deux autres émounotes qui viennent aider le judaïsme à dévoiler Dieu s'appellent le christianisme et l'islam. Ainsi, le Rambam dira qu'on n'a pas le droit de se moquer du christianisme et de l'islam, bien qu'il pense que le christianisme c'est de l'idolâtrie et que l'islam ils font n'importe quoi. On ne peut pas se moquer d'eux, à aucun moment, parce que grâce à eux, les notions bibliques et messianiques se sont dévoilées dans le monde. Ah ben, pas de question. C'est comme ça. Et attends, je vais aller encore plus loin en te disant que Hur... C'est le yesod de ce qui va devenir à l'islam, vers Aaron de ce qui va devenir le christianisme. Chas v'shalom de dire que Aaron, il est l'obéseder, Aaron ou tzadik gamour, et il n'est pas chrétien du tout. Et Hur, c'est un tzadik aussi, et il n'est pas du tout musulman. Ou becholzot, l'essence de ce qu'il représente l'un comme l'autre, eh bien, va se retrouver et là. Comment? On verra ça dans la paracha de Kitissa. Pas encore. C'est-à-dire, donc, je le balance comme ça. Hein, mais elle m'a la saute. Bekitsour, va chalosh Yoshua et Amalek et Amol ficharev. Yoshua a affaibli Amalek. Pourquoi il ne les a pas terminés? Nous dit Rashi, Alpi Adibour. il a reçu une névoie qu'il ne faut pas tous les tuer. Que pour l'instant, il ne faut que les affaiblir. Semble-t-il qu'il a encore un rôle à jouer, ce Amalek. Vayomer Hashem el Moshe ketov zot zikaron basefer vesim beozne Yehoshua. Lama. Il faut écrire tout ce qui s'est passé dans le livre et des livres. En sefer Torah bentaim. Oui, mais dans lequel livre ? Alors, est-ce que c'est dans la Torah ? Ou est-ce que c'est dans un autre livre qu'on sait qui a existé parce qu'il est marqué dans la Torah, mais qu'on ne sait pas où il est ? À savoir, Sefer Milchemot Hashem. Ça semble être le propice. Donc, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ?
Mais Sefer Milchemot, c'est les guerres.
Oui. Tandis que... J'entends bien, mais là on parle quand même d'écrire le récit d'une guerre. Je dis, c'est pas complètement idiot de dire que ça soit écrit dans ce fameux livre qui s'appelle Sefer Milchemot Hashem. Je dis pas que c'est là. Je dis, c'est intéressant. Ça peut être là aussi. Bekitsour. Oui.
Je sais pas où il est.
Bah non.
On l'a perdu.
Bah ouais.
Ça va revenir.
Peut être rattaché. Ok ? Kimacho emchet zecher amalek mitachat ashamaim. Vayiven Moshe mizbeach. ויקרא שמו השם ניסי, מה זה ניסי? נו.
בניאר.
בניאר, וואלה. פעם הוא מיראקל. נס, זה טעם בטון. טריאו בטון. נבואה או לואן. אוקיי? דונק, דיו אמון נטנדר. וואלה? ויאמר כי יד על כס יא מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מה זה ויאמר? מי אמר? Mais qui c'est qui parle jusqu'à maintenant ?
C'est Hachem.
Mais il y a deux secondes, c'est Moshe qui a construit le Mizbeach.
Ouais.
Donc, Chazal nous dit, Hachem diber begrono shel Moshe. C'est-à-dire, c'est Moshe, c'est Hachem. C'est Hachem, c'est Moshe. Ils ont dit ensemble, Yomer ki yad al kesia, c'est-à-dire que qui a la main sur le trône ? Zeya, c'est Dieu. Milchama, la Hachem, ba Malek, dans chaque génération. Qui a la main sur le trône ? Qui a la main mise, si tu veux ?
Ah,
qui est le patron ?
Ah, je pensais qu'on parlait
du Non, la main de manière générale. Oui ?
Est-ce que dans le Sefer Milchemot Hashem, tu peux me dire si on parlera de la guerre de Gog ?
Ben non, je ne peux pas te dire, je ne l'ai jamais vu.
De la fin des temps,
mais je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Je ne peux donc pas te dire ce qu'il y a marqué dedans.
Mais ça, ce n'est pas sur
le coup. Eh ben, pas encore. Mais rien ne t'empêche de faire une série.
J'ai une question.
Oui ? Oui.
Et après, il dit, je vais effacer le lieu d'y décrire dans les souvenirs. Et d'un autre côté, après, il se contredit en disant, de toute façon...
Tu as raison. Qui aimerait et zecher amalek, et faut mitachat ha-shamayim. L'homme est à la-shamayim. C'est-à-dire qu'il faut effacer le souvenir d'Amalek, po. Mais il faut se rappeler qu'il a un rôle à jouer là-haut. Ok ?
Mais il y a une autre promesse.
C'est quoi son rôle à jouer ?
Qu'on verra beaucoup plus tard. Tu parles dans la paracha de Kitetsé. Je sais pas de quoi tu parles.
Ben, il y a une promesse au sujet de ce qu'elle dit là. Il y a une autre promesse où il est dit quand tu seras établi dans le pays.
Timre et Zecher Amalek.
Et que tu seras tranquille par rapport aux.
Tout à fait. Enfin, c'est ce que je dis dans la paracha de Kitetsé, à la fin du livre de Dvarim, où on te redit ça. Mais on te redit la même chose. Timre et Zecher Amalek, mitachat ha-shamayim lo tishkach. Mais encore une fois, c'est mitachat la-shamayim. Ah, il a à nous rappeler qui on est. Si jamais on oublie. Hein? Oui. C'est faux ce que tu dis. Je ne suis pas prêt à accepter le Lashon Hara contre le peuple juif. Les gens qui manifestent contre Bibi ne sont absolument pas Amalek. Ce sont des juifs, pour la plupart d'entre eux tzadikim. Je ne connais pas leur quotidien, ce qu'ils font Shabbat, ils mangent kasher, ça ne me regarde pas. Mais ce sont des gens qui sont contre la politique de Benjamin Netanyahou. Je ne suis pas d'accord forcément avec eux, ou je suis d'accord avec eux, ce n'est pas le débat. Ils ont tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec Bibi. Ce n'est pas pour ça que ça fait d'eux Amalek, Chas ve Khalila.
Tu leur autorises le droit de manifester aussi ?
Ben évidemment, pourquoi est-ce que je ne leur autoriserais pas le droit de manifester ? Quoi ? Si je suis pas d'accord avec la politique, heureusement que j'ai le droit de dire que je suis pas d'accord avec la politique. Mais arrêtez avec trop de démocratie, ça c'est génial. Les gens de droite, ils sont fans de la démocratie quand ça les arrange. Les gens de gauche, pareil. Je te rappelle que toi, on a pu tout à fait manifester quand il y a eu le problème du Gouch Katif. On a fait des chaînes humaines de Jérusalem jusqu'au Gouch Katif. Ça a servi à rien. Parce que le reste de la population, elle n'a pas manifesté. Donc toi, tu étais bien content de manifester à ce moment-là. Il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas manifester aussi. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux, mais ce n'est pas le débat.
Pourquoi ?
Pourquoi je ne suis pas d'accord avec eux ? Parce que je pense que la raison pour laquelle ils manifestent est une erreur. Mais c'est très personnel. Ben, c'est tout. Et Reftov ?
La semaine prochaine, on dit pas.
Quoi ?
Alors,